Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre la thématique de la semaine dernière qui était sur les élections municipales en France. Et on peut dire que les choses avancent de jour en jour, de semaine en semaine, et avec les élections qui se rapprochent. Donc, cette semaine, nous avons eu les programmes des différents candidats, mais il y a en fait deux listes qui s'opposent, c'est-à-dire la liste sortante de M. Moudenc et la liste Parti Socialiste avec une alliance avec les écologistes et divers partis de gauche, dont le PC, en fait une union de la gauche avec les écologistes, avec François Briançon. Alors, effectivement, il y a d'autres listes, mais aujourd'hui, on va rester sur les deux listes principales et, comme on se propose dans le cadre de cette émission, c'est l'analyse de ce qui a trait à l'urbanisme et au logement. Alors, je me répète peut-être, mais c'est toujours important de le rappeler, les élections municipales, à la différence des élections nationales, ne portent pas sur le législatif, c'est-à-dire le changement de vie, de régime, etc., est assez faible, puisque les pouvoirs, même avec la décentralisation, sont relativement limités. Et c'est pour cela que j'avais développé la semaine dernière la thématique du logement et de l'urbanisme, parce que c'est ce qui est essentiel comme mission dans les villes. Et alors, ce que je peux reprocher à ces propositions, à ces intentions que sont les programmes municipaux, c'est de noyer ce sujet essentiel qui est en fait la préoccupation majeure des habitants. C'est où va-t-on se loger et quelle va être l'organisation du logement. D'avoir des thématiques qui, évidemment, en soi-même, quand on parle de la santé, par exemple, ce sont des thématiques importantes, mais qui dépendent de politique nationale et c'est pour cela que je voulais remettre l'accent sur les questions essentielles qui concernent les villes. Alors, je ne vais pas reprendre ce que j'avais dit sur le logement, mais ça me paraît être le grand absent des programmes, si ce n'est qu'on cite un chiffre dans la liste de gauche de 15 000 logements à loyer modéré. On a l'impression qu'on a peur d'employer le mot HLM avec sa connotation, on peut dire, de ségrégation sociale, ce qui est à la fois vrai et pas totalement. Alors, je vais parler justement de cette question des HLM, mais me semble-t-il que la question essentielle, et ce n'est pas uniquement ce qui me semble à moi, mais toutes les analyses, toutes les enquêtes d'opinion le disent, c'est la préoccupation essentielle des Français et avec les répercussions qui existent. Alors, on a parlé des répercussions, par exemple, sur la démographie, puisque l'agrandissement de la famille, faire des enfants, ça demande d'avoir la surface qui correspond à cette demande, mais ça va plus loin aussi. On sait, par exemple, que le développement économique, aujourd'hui, est lié au logement. On sait, ou on fait semblant de ne pas le savoir. C'est un facteur essentiel qui a évolué au cours des dernières années. L'implantation des usines dépendait des facteurs essentiellement, des facteurs de circulation, des facteurs de positionnement géographique. Alors il fallait être, par exemple, dans les industries de transformation, près des matières premières, mais dans le cas aussi de, on peut dire, d'autoroutes, au-delà des ports, enfin, il y avait des questions de déplacement qui faisaient qu'il y avait une polarisation des industries autour des pôles essentiels par le coût des échanges, et des échanges qui soient routiers, maritimes, et puis même à l'aéroport. Alors aujourd'hui, ce facteur déplacement est extrêmement réduit dans son impact industriel, et on peut dire aussi que le développement de l'informatique dans les déplacements de personnes a aussi fait que la question que se posent les entreprises dans leur implantation, c'est d'avoir des logements pour les employés, des logements accessibles, évidemment aussi, ces logements doivent être, on peut dire, avoir un environnement propice qui soit effectivement de la santé, hospitalier, mais essentiellement aussi les questions d'éducation et la présence d'université, toutes choses que notre ville a, mais le développement économique aujourd'hui et peut être ralenti s'il n'y a pas des logements accessibles et qui ne sont pas les fameux HLM dont je vais parler à l'instant. Alors, le problème des HLM, habitation à loyer modéré, alors je vais faire une critique qui peut choquer certains, mais je dois faire un petit rappel historique. Les logements sociaux ont été créés au XXe siècle pour loger les populations, non seulement les populations modestes, mais les populations moyennes. Donc on avait en fait une disparité de logements entre des logements qui étaient les logements de la bourgeoisie, on ne parle pas des puissants, de l'aristocratie, et les logements qui étaient, en tout cas qui n'avaient pas le confort sanitaire, et la France était d'ailleurs particulièrement en retard au XXe siècle par rapport à d'autres pays, et donc nous avions un retard à rattraper. Donc les initiatives de construction, alors notamment le Fonds populaire avec les HBM, Habitations Bon Marché, a développé des initiatives de logements. Donc, il en existe des logements de l'avant-guerre, par exemple autour du Grand Rond, qui sont de qualité assez grands et qui étaient évidemment un apport nouveau, essentiel dans la manière dont les habitants de notre pays allaient se loger. Alors, il y a aussi la reconstruction. Alors, il y avait dans certaines villes, évidemment, des destructions, mais il y a aussi un afflux de populations. Alors, effectivement, il y a eu des populations étrangères qui sont venues, mais essentiellement, la mutation qui s'est passée à la fin de la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les populations rurales qui, du fait de la mécanisation agricole, ont été réduites et les familles se sont déplacées, en tout cas les enfants des familles rurales, pour devenir alors ou des fonctionnaires, ou des ouvriers, ou des artisans. Donc il y a eu, on peut dire, une grande migration sociale des campagnes vers les villes, et les grands ensembles qui sont décriés aujourd'hui ont été aussi pour ces populations des lieux de bien-être par ne serait-ce que le confort sanitaire qui manquait dans la plupart des logements. Donc ce progrès social a été très important. Alors aujourd'hui, on se trouve avec, on peut dire, une unification des règlements qui fait que les règlements à la fois sanitaires, d'incendie, de protection diverses, d'énergie, etc., sont uniformes dans tous les types de logements, et on arrive à une uniformisation entre les logements, on peut dire, pour les personnes aisées, les personnes moyennes ou les personnes pauvres, des logements qui sont à peu près semblables au niveau de qualité, de construction, de confort, etc., par cette uniformisation des règles. Et ce qui différencie, c'est l'endroit où on habite. Alors, la question d'habitation à loyer modéré, c'est plutôt une question de personnes plus qu'une question de bâtiments. C'est-à-dire cette innovation qu'il y a eu dans les périodes anciennes, aujourd'hui, n'a plus cours. Donc, on est au paradoxe où le logement à loyer modéré, bâtis par les organismes HLM, sont identiques, et souvent ils sont achetés à des promoteurs privés, et c'est simplement l'État qui met une dotation qui coûte des dizaines de milliards par an à l'État, donc à nous. Donc en période de déficit comme nous connaissons, on devrait regarder cela, attendu que dans les pays européens, dans l'Europe aujourd'hui, on a quasiment une réduction et des ventes, des acquisitions, des organismes sociaux qui disparaissent. Et la France se trouve avec ce quota de logements HLM qui est quasiment égal à la somme de logements HLM des autres États de l'Union, ce qui est quelque part problématique, ne serait-ce que ce chiffre n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, cette demande de toujours acheter, de rajouter des HLM dans le patrimoine est quelque chose qui, effectivement, n'a plus de sens dans la situation actuelle. Donc, une politique qui est basée sur cela, la question c'est plutôt quel quartier et quel type de logement peut-on faire, et il ne faut pas négliger ce qui est la demande générale des populations, c'est la possibilité d'acquisition. Et aujourd'hui, les acquisitions sont difficiles parce qu'il y a renchérissement des taux. Les logements, du fait de la, on peut dire justement, de la faiblesse de la mise en chantier, qui est due à différents facteurs, des facteurs économiques, de coûts, c'est les réglementations aussi, les fameuses zones où on interdit de construire quelque part aujourd'hui. Donc on se trouve avec une interdiction de construire, et vous savez tous que la rareté des biens produit le renchérissement. Alors c'est des thèmes que j'ai déjà développés, mais qui me paraissent essentiels, et je crois que une stratégie municipale doit poser ce problème tel qu'il est, c'est-à-dire de répondre à la demande des citoyens. Alors, ce que je vais développer, c'est que dans les deux listes essentielles, mais on peut dire que c'est généralisé, on a un appel à l'écologie. Dans la liste de gauche, c'est clairement dit, c'est Toulouse Ville Verte, et avec une symbolique qui est l'étoile verte, mais on peut dire aussi que dans les listes sortantes de M. Moudenc, on a aussi les opérations qui ont été réalisées avec la végétalisation, le climat, les mêmes préceptes. Alors, vous me direz, bon, c'est très bien, mais comme l'écologie est n'a pas un poids politique très important et que le parti écologique ne représente pas beaucoup d'électeurs, on peut se poser la question démocratique des comment se fait-il qu'un parti qui a aussi peu d'électeurs puisse avoir une telle influence sur la totalité des programmes. Alors c'est une question qui me paraît essentielle et que je vais développer dans la deuxième partie de l'émission. Je vous disais que l'écologie a pris une place très importante, mais qu'il faudrait ne distinguer l'écologie telle qu'elle est en tant que discipline scientifique, c'est-à-dire l'étude des milieux, de l'écologie politique, qui est vraiment tout autre chose et qui me semble aujourd'hui être un remplacement du marxisme qui était, on peut dire, l'ossature intellectuelle de la pensée, on peut dire de gauche, mais d'une manière générale à l'université, et aussi dans la presse et dans les médias. Et donc l'écologie a pris cette place. Et bien sûr qu'une discipline scientifique qui se vulgarise et qui devient politique, il y a certains déplacements, on peut dire, sémantiques et idéologiques qui, eux, ne sont pas scientifiques. Alors, il est vrai que lors des émissions, j'ai souvent un regard assez critique parce que il y a des affirmations qui, sous le couvert de la science, sont quand même particulièrement fantaisistes, et notamment les injonctions pour de transformation de la ville, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, de la ville avec ce que les préconisations de l'écologie. Or, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire peindre les sols en blanc et toutes choses, et toutes aussi les rappels à des îlots surchauffés, attendu que c'est tout à fait le contraire. Quand il y a des îlots denses, c'est la fraîcheur, et Toulouse, ne l'oublions pas, est une ville du sud, dont la transformation de Toulouse ville verte me surprend un peu, parce que on peut pas parler de l'identité de la ville et à la fois de dire nous allons végétaliser. Alors, on va pas me faire le reproche d'être un bétonneur de tout et de tout vouloir minéraliser, mais on peut dire que les traditions des villes du sud sont des villes denses, et d'ailleurs pas uniquement sur le sud de la France. C'est les villes du sud, de l'Italie, de la Grèce, et aussi les villes de l'Espagne, et aussi celles de les villes anciennes de la Méditerranée et du Maghreb. Donc, les gens n'étaient pas des imbéciles avant, et on faisait au contraire des îlots frais construits, et pas des îlots surchauffés. Donc je comprends pas très bien que tout le monde reprenne quelque chose qui est complètement faux, et je vais encore le redire, mais Radio Occitanie est dans un hôtel de Renaissance, et cet été, avec la chaleur, la cour était très fraîche, avec les murs très épais en briques, et la rue Saint-Rome et toute cette ville médiévale est justement préservée de la chaleur. Alors, c'est sûr que les arbres ont un rôle, on peut dire, rafraîchissant, mais ils n'ont pas un rôle direct. Des pins, par exemple, n'ont pas qui sont des arbres qui peuvent pousser sur des terrains arides, que des arbres qui sont avec des feuilles qui nécessitent de l'eau. Donc on a le problème de l'évaporation qui est, d'une manière physique, un acteur du rafraîchissement par l'évaporation de l'eau qui, par modification physique, crée une température, mais ceci étant, c'est quand même un match nul, puisque la vapeur d'eau est plus chaude que le rafraîchissement, donc on arrive à une somme nulle globalement. Alors, les villes, on peut dire du nord, Londres par exemple, sont des villes beaucoup plus vertes, parce que d'abord les plantes poussent facilement, et la tradition des villes du sud n'est pas celle-là. Alors, il y a aussi un autre facteur que l'on oublie, c'est que les arbres, ils sont pas en matière plastique. Il faut les faire pousser, les arroser, les tailler, ramasser les feuilles. Il y a l'entretien et le coût d'un parc, d'un espace vert. Et il y a quelque chose qui est absolument, qu'on ne peut pas modifier, c'est que le prix d'un espace vert, au bout de 6 ou 7 ans, et on a repayé en entretien le prix original de la création d'un parc, d'un jardin, d'une allée. Donc c'est un chiffre considérable qui doit être pris en compte, et sans compter l'aspect indirect que l'on a pu voir notamment dans la ville de Toulouse, avec des travaux qui ont pour planter quelques arbres sur la rue de Metz. Ça, on a une durée de 3 ans avec un impact de nuisance important, un impact économique sur les commerces alentours, sur la circulation de la ville qui n'est pas rétablie. Enfin, tout cela fait partie d'éléments négatifs et ce problème n'est pas posé sur une manière qui soit objective. On est sur une question sentimentale, c'est-à-dire, par exemple, on a parlé qu'il y a une loi qui serait édictée par les écologistes que actuellement, depuis tous les appartements, on devrait voir 3 arbres, et ça, ce serait la satisfaction, le bonheur ultime de l'humanité. Bon, la ville à la campagne, on ne va pas reprendre la plaisanterie d'Alphonse Allais, ou pourquoi ne pas mettre les villes à la campagne, parce que l'air y est bien plus pur. Donc, la nature dans la ville, pourquoi pas la ville dans la nature? Et surtout, quand une ville comme Toulouse, qui est une ville qui, justement, à une proximité de la campagne, des 4 points cardinaux, avec la forêt de Boucone, la partie nord aussi de Toulouse, on a des champs immédiatement. Dans le sud, le Lauragais, on a des villages, on est rapidement dans une zone agricole très dense, dans l'est et dans l'ouest aussi. Donc, faire rentrer de la nature à un coût à la fois d'une perturbation très importante sur la vie des habitants et pour un résultat donc qui n'est pas très probant. Or, par exemple, les remblasses qui ont été faites par la municipalité actuelle, je pense que c'est un raté total. D'abord, ce ne sont pas des remblasses, c'est une sorte d'allée entourée de buissons qui empêche de voir sur les côtés. Et c'est-à-dire totalement le contraire des remblasses. Les remblasses de Barcelone, puisque c'est celles que les Toulousains connaissent, elles sont larges, elles ont, je crois, 35 mètres de large. La rue et la circulation est très étroite, mais surtout, il y a une... elles sont légèrement surélevées par rapport aux commerces qui sont sur les côtés, et notamment les restaurants et les cafés qui ont leur terrasse sur les remblasses, et on a un va-et-vient avec une traversée de la voie de circulation des serveurs qui peuvent servir les repas et les boissons et qui font l'animation. Alors là, dans le cas de Toulouse, on est loin de cela, on a créé 2 barrières de part et d'autre. Je pense que c'est la chose la plus absurde qui puisse être. Et à ce sujet, donc, je fais une critique de la municipalité actuelle et puis je vais faire le parallèle avec une critique des propositions de la liste de gauche où on a, dans ce projet d'étoile, un projet de transformation des boulevards. Alors là, c'est quelque chose qui est quand même très important. Alors je ne parle pas du coût de l'opération, il y a aussi des nuisances avec les exemples des remblasses qui ont bloqué la ville d'une manière insensée pendant des années. J'en ai déjà parlé, la rue de Metz, on se demande pourquoi un chantier pour planter et pour une modification quasiment très peu visible, il faut 3 ans de travaux, on est dans un délire aussi de ce côté-là, mais c'est un autre sujet. Alors, je voulais en revenir justement à ces continuités vertes. Alors, ça plaît très bien, ça. On a les continuités vertes, puis on peut dire, il y a les insectes, les papillons, les oiseaux qui ont une continuité verte. Et ça, c'est tout à fait, on peut dire, on est dans un film voisinet. On a la nature qui rentre avec le végétal et l'animal qui ont une continuité et qui n'ont pas des ruptures avec une ville qui serait la ville du jardin à la française, qui est minérale, qui est, on peut dire, mathématique, géométrique, et qui n'a pas cette coulée verte, avec le mot coulée verte, qui a toute une pensée romantique qui est liée avec cela. Alors, il faut rappeler que la ville, c'est pas la campagne, et que créer des haies le long des boulevards pour séparer la circulation en voiture de la circulation piéton. Alors c'est un propos que je tenais à mes étudiants quand j'étais enseignant à l'école d'architecture de Montpellier. Et c'est assez curieux parce que ce sont les étudiants qui comprenaient le propos et ma critique justement de ces continuités où on avait des buissons en ville. Et les étudiantes comprenaient très bien qu'il fallait qu'il y ait la visibilité et qu'il fallait mieux avoir des arbres avec justement rien au bas des arbres. Et parce que la visibilité entre la rue passante de voitures, avec évidemment la police et le piéton, et dans le cas présent, les jeunes femmes, puisque c'était le cas, mais les femmes d'une manière générale savent très bien que d'être entre une façade et une haie, le soir, même dans la journée, dans des haies dans lesquelles peuvent se cacher des intrus et des agressions, et surtout l'absence de visibilité qu'il peut y avoir entre la rue de circulation et la rue piétonne. Donc, comme quoi, une très bonne idée peut être aussi une très mauvaise idée, et il serait temps qu'on s'en aperçoive avant qu'on lance des programmes de cette sorte. Donc, je crois avoir essayé de faire l'équilibre des critiques entre les sortants et les potentiels entrants sur les questions de la prochaine campagne des municipales, avec ces programmes, évidemment, la partie qui concerne l'urbanisme et la ville, mais je pense qu'on va pouvoir en parler et peut-être interroger aussi les candidats.